Toujours à l'écoute de RSE, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, en streaming partout. On vient d'écouter donc Turk Haïku de Babazoula, hein, de l'album Cochlear. Et on va maintenant tout de suite écouter Pauline Blanc, qui est avocate et qui parle de la mise à l'abri des mineurs isolés étrangers. Ça a été enregistré lors de la réunion nationale du collectif Jugi, Injustice pour les jeunes isolés étrangers, le 23 mars dernier. Et donc tout de suite, on retrouve Pauline Blanc, la mise à l'abri des mineurs isolés étrangers.
Je suis Pauline Blanc, je suis avocate à Paris. Là, l'idée de ce premier petit point, c'est de faire un point sur la mise à l'abri des mineurs isolés étrangers. Parce que la mise à l'abri, c'est avant tout une obligation en principe pour les départements. Dès lors qu'un mineur se présente au département en se disant isolé, le département doit le mettre à l'abri. Malheureusement, on sait bien que c'est un principe, une obligation qui n'est pas toujours respectée, voire pas du tout, selon les départements. L'idée, c'est de faire un petit point de tout ce qui a pu être fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut espérer tenter à l'avenir. Donc déjà, juste pour rappeler un peu la base juridique, c'est le Code de l'action sociale et des familles et l'article R221-11 qui réglemente cet accueil provisoire d'urgence, c'est le nom, et donc qui dit bien que le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. Donc le texte est très clair, toute personne qui se déclare mineure et isolée doit être placée sous cet accueil provisoire d'urgence par le département. La procédure qui est mise en place en théorie, c'est que le département doit donc mettre à l'abri le jeune pour une durée de 5 jours. Pendant cette durée de 5 jours, il doit procéder à une évaluation de la situation de cette personne, pendant laquelle il doit normalement effectivement conclure à sa minorité ou à sa majorité, à son isolement ou pas. Et au bout de ces 5 jours, il est censé, après avoir fait cette évaluation, il est censé saisir le procureur de la République pour que le procureur de la République prenne une décision de placement provisoire. Le juge des enfants doit ensuite prononcer un placement définitif. Ça, c'est le schéma en gros, classique. Donc ça passe par le département qui décide ou non de saisir le procureur de la République, qui ensuite doit lui prononcer un placement en urgence avant que le juge des enfants intervienne. En pratique, on voit que c'est tout à fait différent et ça peut varier selon les départements, donc on pourra en discuter ensemble, mais on voit que en réalité la période d'accueil provisoire d'urgence qui est censée ne durer que 5 jours, elle va le plus souvent durer beaucoup plus longtemps. L'évaluation, elle peut être programmée parfois à plusieurs semaines, sans même qu'une mise à l'abri soit mise en place d'ailleurs. Le procureur de la République n'est pas nécessairement saisi au bout des 5 jours. Il me semble au contraire que parfois on a des situations où les jeunes sont mis à l'abri mais sont dans l'attente d'une évaluation qui n'arrive pas toujours. Enfin voilà, on voit que c'est quand même très variable en pratique. Ça, c'est ce qui est prévu par les textes. Donc, c'est-à-dire que la mise à l'abri, c'est une obligation pour le département. Dans la réalité, il y a beaucoup d'obstacles en pratique et les départements ne respectent pas forcément cette obligation de mise à l'abri. Donc, il y a plusieurs scénarios qu'on a pu voir se développer dans différents départements. Moi, j'ai plus l'expérience de Paris et de la région parisienne. Après, on pourra discuter, en effet, de tout ce que vous avez pu rencontrer. Déjà, on a beaucoup de scénarios où les jeunes vont se présenter. C'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis, où les jeunes vont se présenter auprès de la cellule d'évaluation et on va leur remettre un rendez-vous pour une évaluation dans 6 semaines, 2 mois, sans aucune mise à l'abri. là, c'est un vrai problème, puisque normalement, le département doit immédiatement mettre le jeune à l'abri. Et cette mise à l'abri ne doit cesser que si le département refuse de saisir le procureur de la République et décide qu'il n'y a pas de prise en charge parce que le jeune est majeur. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller au... Enfin, ça a été fait, on a pu aller au contentieux pour obliger le département à mettre en place cet accueil provisoire d'urgence, en tout cas pendant le temps ou dans l'attente de cette évaluation. Ça a été fait à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, en tout cas, on a pu saisir le juge en référé liberté. Ça a été fait à Rouen, ça a été fait à Nantes. Et donc le Conseil d'État, le 25 janvier 2009, donc très récemment, a effectivement confirmé que, alors c'est dit très clair, la délivrance à une personne se disant mineure, donc c'est vraiment se disant, c'est vraiment déclaratif si la personne se présente en disant mineur privé de la protection de sa famille et sans abri. Donc la délivrance d'un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu'il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission d'accueil du département. Donc, quand on rencontre ce type de situation, c'est-à-dire qu'il y a bien un rendez-vous pour une évaluation, c'est-à-dire que c'est pas contesté que la procédure d'évaluation est en cours, il faut essayer d'agir, de saisir les tribunaux pour faire respecter cette mise à l'abri. Après, ce qu'on voit quand même quand on lit les décisions de la jurisprudence, c'est que c'est quand même toujours important de bien caractériser la situation dans laquelle se trouve le jeune, sa situation de précarité, parce que évidemment, ça nous paraît logique qu'un mineur sans abri est dans une situation de précarité évidente, mais il y a eu quand même des décisions négatives dans lesquelles on considérait que le jeune n'avait pas suffisamment démontré la précarité de sa situation. Et donc c'est bien d'avoir parfois des certificats médicaux, des évaluations. Enfin, dans le 93, on a pu travailler avec Médecins du Monde et ils ont pu nous faire des évaluations psychologiques, des certificats médicaux. Et on a pu produire ça à l'appui de nos requêtes devant le juge. Et c'était quand même des éléments assez importants pour condamner le département. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière, parce qu'on est quand même toujours obligé d'aller au contentieux, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à agir et à saisir les tribunaux. On a même pu voir qu'il suffisait de saisir le juge et le département, avant même que le juge intervienne, mettait à l'abri le jeune, parce qu'ils savent bien qu'ils sont ils sont dans l'illégalité en remettant des rendez-vous à plusieurs semaines. Un autre obstacle qu'on a pu voir qui est un peu plus compliqué à surpasser, et c'est notamment le cas à Paris avec le DEMI, c'est en fait le cas de jeunes qui n'arrivent même pas à accéder au dispositif de mise à l'abri et d'évaluation, puisque ce qui se passe donc notamment à Paris avec le DEMI, c'est qu'il y a énormément de refus guichets, comme on dit, c'est-à-dire que les jeunes, déjà il y a énormément de jeunes qui se présentent tous les jours, donc il est très difficile d'accéder, même d'entrer dans le DEMI, et en fait il y a un entretien extrêmement court, une petite conversation de 10 minutes avec le jeune, dans le meilleur des cas, parce que parfois c'est juste il y a une espèce de vigile à l'entrée qui fait un tri au faciès, quoi, et on va à dire aux jeunes, ah ben non, toi t'es majeur, c'est sûr, on te prend pas, tu rentres même pas. Donc là, la difficulté, c'est que on a même pas, en fait, les jeunes n'arrivent même pas à accéder au dispositif d'évaluation. C'est-à-dire qu'on refuse en fait d'évaluer leur situation avec la mise à l'abri qui va avec, en principe, puisqu'ils doivent être tout de suite mis à l'abri avant que l'évaluation soit mise en place. Et donc là, ça a été c'est très compliqué de contester ces pratiques, déjà parce que on est dans la difficulté, ne serait-ce que pour prouver ce qui se passe, puisqu'il n'y a aucun écrit, il n'y a pas de décision écrite de refus, c'est juste des refus verbaux comme ça qui sont signifiés aux jeunes. Ils n'ont pas de décision de refus de prise en charge du département. Donc on essaie de mettre en place des accompagnements, des témoignages, etc. Et en fait, en allant au contentieux, donc il y a eu différentes tentatives. Et donc en août 2017, le Conseil d'État a quand même confirmé que il était, enfin, illégal pour le département de refuser l'accès au dispositif d'évaluation et de mise à l'abri, et qu'il fallait que le département, assure l'accès des jeunes à la mise à l'abri et à l'évaluation. Le souci, c'est que à Paris, on a perdu devant le Conseil d'État parce que la Croix-Rouge et le département de Paris affirment que ce qu'ils font, c'est-à-dire un tout petit entretien, presque un entretien flash, comme ils disent maintenant, ça correspond à l'évaluation qui est prévue par les textes. Ce que nous, on conteste, parce que normalement, l'évaluation porte sur différents points du parcours du jeune, etc. Alors que là, on a des conversations qui durent 20 minutes avec le jeune, qui sont souvent presque des interrogatoires à charge contre le jeune, qui sont menés par des personnes dont on ne connaît pas la formation, enfin dont on ne sait pas d'où elles viennent, on ne connaît même pas l'identité. Quand on voit les espèces de comptes rendus, on n'a même pas l'identité de la personne qui a mené l'entretien. Et malheureusement, le Conseil d'État, dans un des contentieux qu'on a tenté, a considéré que, étant donné que le jeune avait quand même été reçu, le petit compte rendu faisait ressortir l'ensemble des points prévus par les textes, on pouvait considérer qu'il avait bien fait l'objet d'une évaluation. Et puis, en fait, aussi, le problème qu'on a, c'est que souvent, les jeunes qui sont dans cette situation n'ont pas de documents d'état civil. Parce que ce que dit le Conseil d'État aussi, c'est qu'on n'avait pas démontré que l'appréciation qu'avait fait le département quant à la majorité du jeune était manifestement erronée. Et c'est vrai que, du coup, nous, on arrive devant les juges et les jeunes n'ont pas de document d'état civil. Donc, finalement, on est un peu démunis pour contrer l'appréciation que va faire le département en disant « Mais moi, en fait, on a trop de jeunes qui viennent », parce que c'est aussi ça l'argument fort des départements, c'est l'afflux, c'est le débordement des services, etc. Et ça, c'est un argument qui est très, très écouté par les juridictions administratives, malheureusement. Donc voilà. Après, donc en gros, le Conseil d'État décide de ne pas censurer cette pratique à Paris, en prenant en compte le fait qu'il y a eu quand même une mini-évaluation et qu'au vu de l'afflux, on peut se dire que ça va. En gros, c'est ça. Et qu'en plus, comme on ne démontre pas que l'appréciation est manifestement erronée sur la majorité, il nous dit qu'il n'y a pas de... il ne peut pas, lui, agir en référé liberté. Après, moi, je pense qu'éventuellement, dans des cas où les jeunes auraient peut-être des actes de naissance ou des documents d'identité, il y aurait matière à nouveau tenter le contentieux et essayer de... Là, on pourrait remettre en cause l'appréciation qu'a fait le département dans ce mini-entretien. Donc on a une décision négative du Conseil d'État, mais on peut se dire que c'était quand même dans cette espèce-là. Il y a quand même matière à, en tout cas, retourner au contentieux, essayer de faire quelque chose. Voilà. Et puis toujours aussi, je pense qu'il manque un peu dans ces contentieux-là, c'est d'essayer d'avoir encore une fois des éléments sur la précarité de la situation des jeunes, même si nous, ça nous paraît absurde parce que c'est évident. Mais malheureusement, il y avait quand même une décision où le tribunal indiquait que le jeune était célibataire et voilà, sans charge de famille. Bon, d'accord. Mais donc du coup, c'était pas si grave finalement s'il dormait un peu à la rue. Enfin, c'est un peu ça. On a l'impression ce qui ressort des décisions des juges. Donc en fait, il faut, voilà, je pense bien essayer de bien construire les dossiers. Après, c'est compliqué dans la pratique au quotidien, bien sûr, mais voilà, peut-être qu'avec de plus en plus de décisions positives, on réussira à changer la pratique des départements là-dessus. Donc après, on pourra discuter, vous, des obstacles que vous rencontrez, mais en tout cas, nous, le gros souci qu'on a à Paris, c'est ça, c'est vraiment l'accès au dispositif, puisqu'au final, les jeunes n'ont plus qu'à saisir le juge des enfants directement, et on part dans une période assez longue où ils attendent leur audience, et pendant toute cette période, il n'y a aucune mise à l'abri. Alors que normalement, le texte est très clair sur l'obligation de mise à l'abri pour toute personne qui se déclare mineure. Je voulais faire un petit point aussi sur ce qui se passe finalement quand l'accueil provisoire d'urgence est terminé, parce que du coup, donc les jeunes sont mis à l'abri dans le meilleur des cas, sont évalués. Et ensuite, le département soit va considérer qu'effectivement le jeune est mineur, il saisit le procureur de la République et ça s'enclenche, soit il considère que le jeune n'est pas mineur et il lui notifie une décision de refus de prise en charge. À partir de ce moment-là, le jeune, il a pas beaucoup d'options. Donc traditionnellement, les juridictions administratives ont considéré qu'on ne pouvait pas contester devant les tribunaux administratifs ce refus de prise en charge du département. Ça a été tenté parce que c'est une autorité administrative qui prend une décision, donc on aurait pu penser qu'on pouvait la contester devant les tribunaux administratifs, ce qui aurait été bien parce qu'il y a des procédures d'urgence qui nous sont ouvertes devant les juridictions administratives, alors que devant le juge des enfants, à Paris par exemple, on saisit le juge, on n'a pas une audience avant un mois, peut-être dans le meilleur des cas, et on peut demander à ce que le juge des enfants prenne, ordonne un placement provisoire, mais c'est assez rare que ça soit obtenu. On est sur une procédure qui dure longtemps. Et malheureusement, le Conseil d'État traditionnellement considère que les jeunes sont irrecevables à saisir les juridictions administratives étant mineurs et que la seule voie qui leur est ouverte, c'est la voie du juge des enfants. Sauf que bon, voilà, on est. Alors, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant toute cette période où on est en attente d'une décision du juge des enfants. Les jeunes ont peut-être quand même des documents d'état civil qui n'ont pas été pris en compte par le département, parce que c'est quand même souvent le cas. On a juste des évaluations, éventuellement des expertises osseuses, mais les actes d'état civil sont pas forcément pris en compte. Et donc là, on a quand même eu des bonnes décisions, notamment à Nancy et à Nantes, où le juge administratif a accepté le recours du jeune et a ordonné au département de remettre à l'abri le jeune dans l'attente d'une décision du juge des enfants, en prenant en compte les documents d'état civil que le jeune avait présentés. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, on en revient à le jeune peut saisir le juge administratif pour remettre en cause l'appréciation qui a été faite par le département sur sa majorité, en se prévalant des documents qu'il a, lui. Alors, ça, on a eu une bonne décision donc à Nantes, qui malheureusement a été censurée par le Conseil d'État, qui a rappelé que le jeune était irrecevable parce que la seule voie de recours qui lui est ouverte, c'est la voie du juge des enfants. En plus, dans ce cas-là, il a relevé que le juge des enfants n'avait pas pris de placement provisoire. Et c'est vrai que quand on est devant les juges administratifs et qu'on explique « mais le juge des enfants n'a pas pris de placement provisoire », ça peut être défavorable pour nous, parce que le juge administratif va dire « si le juge des enfants ne prend pas de placement provisoire, pourquoi est-ce que... Enfin, s'il a considéré qu'il n'y avait pas besoin de placement provisoire, pourquoi est-ce que moi, je considérerais l'inverse ?» Donc on a une mauvaise décision du Conseil d'État. Mais le bon point, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie là-dessus. Donc c'est le La procédure est toujours en cours, mais il y a une procédure d'urgence qui a été enclenchée sur le fondement de l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a enjoint au département de mettre à l'abri le jeune dans l'attente, enfin en tout cas provisoirement, ce qui est quand même un bon signe, et ce qui peut être un bon signe de ce que la Cour européenne des droits de l'homme décidera. Donc là, on est en attente de voir ce qui va se passer, mais ça serait effectivement une bonne avancée, puisque finalement, on pourrait, si la Cour européenne des droits de l'homme ensuite condamne la France là-dessus, on pourrait penser qu'on va pouvoir, une fois qu'on a une décision de refus de prise en charge du département, qu'on va pouvoir saisir tout de suite, dans une procédure d'urgence, les juridictions administratives pour avoir une mise à l'abri dans l'attente de la décision du juge des enfants qui peut prendre plusieurs mois. Donc là, ce serait quand même une bonne avancée sur la mise à l'abri, sur l'effectivité de cette mise à l'abri des jeunes. À savoir d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme a pris aussi récemment, donc le 28 février 2019, a condamné la France dans une décision Cannes contre France. Ça concernait donc un mineur afghan qui était dans la jungle de Calais. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en considérant qu'elle avait laissé ce jeune vivre pendant plusieurs mois dans des conditions de précarité, d'hygiène absolument lamentable, etc. Et c'est la décision est quand même assez intéressante parce que, alors dans ce cas-là, il y avait eu une décision de placement déjà du juge des enfants pour ce jeune, et la CEDH en parle, mais elle ne se fonde pas uniquement là-dessus. Donc on peut se dire que, on peut se dire qu'on peut espérer avoir une bonne décision, même sans qu'il y ait eu une décision de placement du juge des enfants. Donc à voir, mais en tout cas, ça c'est plutôt, on attend la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, et à voir ce qu'on pourra, ça nous donnera d'autres outils pour essayer de rendre effective cette mise à l'abri. Et juste un dernier point sur les, justement quand on a une décision de placement par contre qui est prononcée par le juge des enfants mais qui n'est pas exécutée par le département et que le jeune n'est toujours pas mis à l'abri, là il ne faut pas hésiter à saisir les tribunaux parce que il est clair que les départements sont condamnés à ce moment-là à tout de suite exécuter l'ordonnance de placement du juge des enfants. Là, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans le même... on a une décision de placement, donc elle doit être exécutée par le département. Voilà, donc un petit tour de la mise à l'abri.
Toujours à l'écoute du RESF, un réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, en streaming et partout ailleurs. Donc on vient d'écouter Pauline Blanc, hein, qui est avocate et qui nous parlait de la mise à l'abri des mineurs isolés étrangers. C'est enregistré donc le 23 mars dernier, hein, à l'occasion de la réunion nationale du collectif Jugi et Injustice pour les jeunes isolés étrangers. Et comme je vois que les oreilles loin du front, excellente émission, s'installe dans le studio. On va tout de suite passer à notre agenda qui va être très court aujourd'hui. Donc